Bien, bonjour et bienvenue à tous. La dernière fois, nous avons vu comment le continuisme anthropocosmique, c'est-à-dire cette continuité entre le cosmos et l'homme, se traduit en termes de rites par la parfaite continuité entre d'une part la piété filiale, c'est-à-dire donc la vénération marquée aux parents vivants, et d'autre part le culte aux ancêtres et aux parents défunts, c'est-à-dire donc un culte rendu aux morts. Continuité qui est assurée par les rites funéraires et les rites de deuil, qui consistent en des jeûnes de purification qui ont pour but, on l'a vu, de parvenir à visualiser les défunts comme ils étaient de leur vivant. Et ces rites consistent aussi en des offrandes sacrificielles qui doivent être faites aux défunts comme s'ils étaient présents, comme s'ils étaient encore vivants. C'est ce que nous avons vu dans cette phrase des entretiens attribués à Confucius, donc au livre 3, section 12. Ti ru zai, ti shen ru shen zai, zi yue wu bu yu ji. Donc il s'agit de ti, donc de faire ses offrandes sacrificielles, comme si le défunt ou l'ancêtre à qui est faite cette offrande était là, était présent. Et de la même façon, il s'agit donc de ti shen, c'est-à-dire donc de d'offrir des sacrifices aux esprits ou aux divinités comme si shenzai, comme si les esprits étaient véritablement là. Et c'est ce qui fait dire au maître Ziyue, si je ne suis pas moi-même présent ou si je ne participe pas moi-même au sacrifice, c'est comme si il n'y avait pas sacrifice. Et nous en faisions la remarque la dernière fois. Ce mot « ru » que vous avez ici, que je traduis par « comme si », c'est un terme donc qui introduit une équivalence entre deux termes. C'est-à-dire donc ici, il s'agit de faire comme si donc les défunts étaient encore vivants. Et ce mot « ru », très curieusement, est récurrent, voire omniprésent, dans les textes ritualistes. Alors, vous en avez un exemple ici. Dans ce chapitre « Tangong » du traité des rites, du « Li Ji », dont nous avons déjà parlé assez souvent. Donc la première partie de ce chapitre Tangong à la section 19 qui vous dit ceci, donc shi si chong chong ru you qiong ji bin ju ju ru you qiu er fu de ji zang huang huang ru you wang er fu zhi. Donc shi, c'est-à-dire tout de suite après la mort, on suppose donc c'est sous-entendu du père ou de la mère, donc aussitôt après la mort, donc le sous-entendu le fils pieux, et chong chong, on le comprend en général comme voulant dire il est submergé par une sorte de trop-plein de chagrin. Lui Ochon, comme s'il était à bout de force, comme s'il était, on dirait plus familièrement, au bout du rouleau, hein, comme s'il avait épuisé toutes ses ressources. La phrase suivante, donc Ji Bin, après donc la déposition du corps dans le cercueil, on pourrait dire la mise en bière, le fils donc Tu, il regarde de tous les côtés, Ru Yo Chou, comme s'il cherchait quelqu'un, c'est-à-dire au fond comme s'il cherchait le défunt, Fu De, c'est-à-dire sans le trouver. Et la troisième phrase, Ji Zang, c'est donc une fois que l'enterrement a été fait, après l'enterrement, donc Huang Huang, donc le fils a l'air, il est inquiet, Ru Yo Wang, comme s'il attendait l'arrivée du défunt, Er Fu Zhi, sans le voir venir. Donc ici, vous avez un comportement, une sorte de gestuel ritualiste du deuil, où donc le fils se comporte comme s'il ne pouvait pas accepter l'idée que le défunt est parti définitivement. Hein, qu'il est, donc il se comporte exactement comme s'il attendait que le défunt revienne. Alors, vous remarquerez ici, même sans lire le chinois, donc, les constructions parallèles que j'ai dégagées justement en scindant le passage en ces trois phrases, qui marquent donc les différentes phases du rite funéraire. Donc, vous avez juste après le décès, ensuite après la mise en bière et enfin après l'enterrement. J'attire votre attention aussi sur les effets de rime. Vous avez donc chong chong ru yo qiong, tu tu ru yo qiou, et ensuite huang huang ru yo wang. Et cette récurrence des impressifs qui sont marqués par des mots redoublés ici, donc chong chong, tu tu, huang huang, et enfin donc la récurrence dans ces trois construction parallèle donc du terme rou, hein, comme si. Donc il s'agit toujours de faire comme si, hein, comme si le défunt était encore vivant. Et alors ce comportement comme si, hésitant, on le retrouve dans de très nombreux contextes ritualistes, à commencer par le comportement qui est attribué à Confucius lui-même dans son existence, on pourrait dire au quotidien. Et vous avez ces notations dans les premières sections du livre 10 des Entretiens. Alors, ce livre 10 commence de cette façon, donc, Kongzi, Yu Xiang Dang, Xun Xun Ru Ye, Si Bu Neng Yan Zhe. Donc, Maître Kong, c'est-à-dire donc Confucius, quand il est donc dans son Xiang Dang, c'est-à-dire dans son village ancestral, quand il est au fond chez lui, Xun Xun Ru Ye, il est comme un homme simple, hein, on pourrait dire direct. Un homme simple, on pourrait dire, Si Bu Neng Yan Zhe, il semble ne pas être capable de parler, ne pas savoir parler. En revanche, Qi Zai Zong Miao Chao Ting, Bian Bian Yan, Wei Jing Er, quand il est donc au Zong Miao, c'est-à-dire au temple des ancêtres, et Chao Ting, donc à la cour de son prince, Bian Bian Yan, là, il parle avec aisance, il sait bien parler, seulement donc Jin, en faisant attention à ce qu'il dit. Et la notation continue donc dans la deuxième section, au début de ce même livre 10. Chao Yu Xia Da Fu Yan Kan Kan Ru Ye Yu Shang Da Fu Yan Yin Yin Ru Ye. Alors, à la cour, ici, donc. Oui, à la cour, on répond au téléphone. Donc, à la cour, quand il parle au xia da fu, c'est-à-dire donc aux officiers de rang inférieur, il craint qu'un rouillé, il a l'air franc et ouvert. Et yu shang da fu yan, donc quand il parle aux officiers de rang supérieur, yin yi rouillé, il a un air donc plein de respect. Ensuite, jun zai, cu ji rouillé, yu yu rouillé. Donc, quand le prince est présent, donc à la cour, quand il est en présence du prince, Tsu Ji Ruiye, j'ai presque envie de traduire par il a l'air de marcher sur des œufs. Hein, c'est-à-dire, en fait, il se déplace, il se meut avec une certaine nervosité. Et Yu Yu Ruiye, il prend un air très concentré, très, très, très pénétré. Donc, vous remarquerez ici, donc, c'est la récurrence de ce terme jou, hein, qui qualifie donc le comportement ritualisé attribué à Confucius, qui est représenté ici comme le sage parfait, dans la mesure où il ne se contente pas de se comporter de manière rituelle uniquement dans les circonstances exceptionnelles, somme toute du deuil d'un parent, mais au fond dans toutes les circonstances de la vie, hein, qu'il soit chez lui, donc dans son village, ou bien au temple ancestral, ou bien à la cour. Et c'est donc ce parfait continuum entre donc les rites, disons, de la vie ordinaire, et les rites funéraires, les rites du deuil, c'est ce parfait continuum qui a fait dire donc à Mauss, lorsqu'il commentait le travail de Grote, donc sur le système religieux de la Chine il y a un siècle, donc Mauss disait la vie des morts finit par encombrer celle des vivants. C'est-à-dire que vous avez une telle continuité que finalement les morts ne s'en vont jamais vraiment, hein. Ils sont toujours là. Et comme je le soulignais la dernière fois, donc Jean Lévy, dans son livre sur Confucius, dont vous en principe vous trouverez les références sur le site du collège, donc Jean Lévy va plus loin en rappelant que la pratique des sacrifices humains, ces sacrifices qui font en sorte que les défunts soient accompagnés dans la tombe par leurs proches, que ce soit des épouses ou des serviteurs, afin de leur permettre de prolonger leur mode de vie comme de leur vivant. Donc c'est la pratique de ces sacrifices humains, selon Jean Lévy, était centrale sous la royauté archaïque. Et ensuite, elle tombe peu à peu en désuétude et, à un moment donné, n'est plus tellement comprise et souffre d'un certain discrédit auprès des ritualistes. Ce qui n'empêche pas, poursuit donc Jean Lévy, que les sacrifices humains étaient encore une question brûlante et qu'elle était loin d'être tranchée du temps même de Confucius. Là, je cite Jean Lévy. Et vous avez donc dans le traité des rites, toujours dans ce fameux Li Ji, toujours au même chapitre Tang Gong, des considérations intéressantes justement sur cette ambiguïté entre justement, enfin, dans la façon de traiter les défunts. Là, Confucius, on le sent extrêmement partagé. Donc, dans ce passage de la première partie du chapitre Tang Gong, la section 74, on fait dire à Confucius, donc Kong Ziyue, maître Kong dit, donc, quand on traite les défunts et qu'on les considère comme zhisi, c'est-à-dire totalement morts. Alors là, j'attire votre attention ici, pour ceux d'entre vous éventuellement qui lisent un peu le chinois. Donc, zhisi zhi, c'est une façon très intéressante d'utiliser dans une acception verbale un substantif. Alors, zhisi, ce sont des gens qui sont morts, vraiment morts. Mais là, en fait, on utilise donc cette expression dans une acception verbale, c'est-à-dire on les traite comme des gens vraiment morts, une acception verbale transitive. Donc, quand on traite les défunts et qu'on les considère comme vraiment morts, c'est puren, c'est manquer d'humanité, et donc puke weiye, ça ne peut pas se faire. Mais d'un autre côté, donc, zhi si, er zhi sheng zhi, bu zhi, er puke weiye. Mais traiter les défunts et les zhi sheng zhi, c'est-à-dire les traiter, les considérer comme vraiment vivants, là, c'est manquer de zhi, c'est-à-dire de, non pas de connaissance ici, mais de jugement, et ça ne peut pas se faire non plus. Donc là, vous êtes un petit peu, on pourrait dire, dans ce dilemme, c'est-à-dire que les défunts, soit vous les traitez comme définitivement morts, c'est-à-dire vous les, au fond, vous vous en débarrassez, et ça, c'est, selon Confucius, un manque d'humanité, hein, parce que les défunts, au fond, restent au moins dans votre souvenir. Mais en revanche, les traiter comme s'ils étaient totalement vivants, ça se peut pas non plus, parce que là, c'est vraiment, comme dit, comme traduit Jean Lévy, c'est de l'idiotie. C'est vraiment de l'imbécilité pure et simple. Donc, shi gu, zhu bu cheng yong, wa bu cheng wei, mu bu cheng zhuo, 青色张而不平，余生背而不合，有终生而无损惧，其乐明气，神明之也。 Et voilà pourquoi, donc, alors là, vous avez tout l'attirail des objets qu'on place dans la tombe, les ustensiles de bambou, hein, que l'on place dans la tombe à l'usage du défunt. Pucheng-yong ne sont pas faits pour servir. De la même façon, donc, les ustensiles de terre cuite ne sont pas faits pour contenir quelque chose. Les ustensiles de bois, hein, ne sont pas faits pour être sculptés, ou ils sont sculptés de façon grossière. Les qingse, c'est-à-dire les luttes, hein, ont des zhang, des cordes tendues, mais pas puping, mais ces cordes ne sont pas tendues pour faire de la musique. Donc elles sont tendues, mais pas de façon homogène. De la même façon, donc, les yusheng, ce sont des sortes d'orgues à bouche, enfin des instruments à vent. Pei, ils sont au complet, mais pas accordés. Et les zhongsheng, c'est-à-dire donc les cloches et les pierres sonores, les lithophones, sont bien là, yao, hein, ils sont bien là, mais pas les suanju, c'est-à-dire les montants. Autrement dit, donc, vous avez ces séries de cloches ou ces séries de pierres musicales, mais qui ne sont pas suspendues à des montants, de façon que justement on ne peut pas de telle sorte qu'on ne peut pas les faire résonner. Autrement dit, là vous avez tout cet attirail d'objets que l'on retrouve effectivement dans les tombes, mais qui ne sont pas les objets d'utilisation courante dans la vie réelle. Ce sont des objets aussi comme si, c'est-à-dire des objets qui sont destinés aux défunts, qui ont toute l'apparence des objets pour les vivants, mais qui ne peuvent pas servir. Et c'est ce qu'on appelle mingqi, c'est ce que Jean Lévy traduit par ustensile mystique, littéralement des qi, des instruments ming de lumière, c'est-à-dire des choses qui servent uniquement pour les esprits. Et ce qui est une shen mingzhi, c'est ce qui est une façon donc de traiter le défunt comme un esprit. Autrement dit, de faire seulement comme si le défunt était encore vivant dans la tombe. Donc là, vous avez une espèce de compromis ritualiste très intéressant, c'est-à-dire que effectivement, le défunt, on ne se débarrasse pas de lui en l'enterrant, on le fait accompagner donc des objets de sa vie de vivant, mais ce sont des objets qui ne peuvent pas servir comme s'ils étaient donc de la vie courante. Et dans un autre passage de ce même chapitre Tangong, dans la deuxième partie, à la section 155, vous avez également quelque chose de tout à fait intéressant concernant donc cette espèce de casuistique ritualiste qu'on place encore une fois dans la bouche de Confucius. Kongzi wei, wei ming qi zhe, zhi sang dao yi, bei wu, er bu ke yong ye. Alors, Maître Kong est réputé avoir dit donc ceux qui ont fabriqué les mingqi, c'est-à-dire les ustensiles mystiques, ceux qu'on vient de voir, donc, avaient une vraie connaissance de la voie des rites funéraires. Ils avaient cette connaissance parce que donc Pei Wu, donc ces ustensiles, étaient au complet, mais Bu Ke Yong, mais ne pouvaient pas, ils n'étaient pas faits pour être utilisés. Ai zai, si zhe, yong sheng zhe zhi qi ye, bu dai yu yong xun hu zai. Alors, ah, ici, là, ai zai, vous avez un soupir, donc, ah, si pour les si zhe, si pour les morts, on avait utilisé des sheng zhe qi, des ustensiles faits pour les vivants, est-ce qu'il n'y aurait pas eu le risque, ou taïu, est-ce qu'il n'y aurait pas eu le risque d'aller yongxun, c'est-à-dire donc littéralement d'utiliser des humains, des humains vivants, sacrifiés donc sur la tombe, pour accompagner donc le défunt dans la tombe. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu ce risque d'aller jusqu'à immoler des vivants pour servir les morts? Et le passage continue en disant qi yue ming qi sheng ming zhi ye. Donc là, ici, il s'agit de la citation, d'une citation du passage précédent, de la section 74 que nous venons de lire. Donc, on les appelle des ustensiles mystiques pour signifier donc qu'on traite le défunt comme un esprit. Tu che, chu ling, zi gu you zhi, ming qi zhi dao ye. Donc, des chars faits de terre et des chu ling, c'est-à-dire des figurines de paille. C'est-à-dire depuis l'Antiquité, il y en a toujours eu, c'est-à-dire que ça existe depuis l'Antiquité, parce que c'est Mingqi Zhidao, c'est la voie des ustensiles mystiques. Or, Kongzi Wei, Wei Chu Ling Zhe Shan, Wei, Wei Yong Zhe Bu Ren, Bu Dai Yu Yong Ren Hu Zai. Or, Maître Krong considérait que fabriquer des figurines de paille, shan, ça c'est une bonne chose. Mais, weiyong, hein, fabriquer des mannequins de bois, là c'est pujan, c'est manquer d'humanité. Parce que là, est-ce qu'il n'y avait pas le risque, putaiyu, donc il n'y avait pas le risque de yongren, hein, c'est-à-dire littéralement de, d'utiliser des humains vivants. Autrement dit, est-ce qu'il n'y avait pas le risque d'en arriver à immoler des êtres humains vivants? Donc cette phrase qui peut vous paraître un petit peu obscure, le raisonnement est le suivant, c'est-à-dire que Confucius est censé considérer comme une bonne chose le fait de fabriquer des figurines de paille, mais il considère comme un manque d'humanité, hein, un risque justement d'enfreindre le principe d'humanité, de fabriquer des mannequins en bois, parce qu'ils ressemblent trop justement à des êtres humains réels, des êtres humains vivants. Parce que là, en fait, on serait tenté justement, à partir de l'idée de mettre des mannequins en bois, d'arriver à l'idée de mettre des humains vivants dans la tombe. Donc, tous ces objets, vous les retrouvez effectivement dans les tombes. Vous avez peut-être vu en image ou en vrai, donc le contenu notamment de la tombe de Qin Shi Huang, donc du premier empereur, où vous avez justement ces fameux chars et cette armée de terre cuite à laquelle il est fait allusion ici, les chars de terre, et aussi donc des figurines, des mannequins en bois qui ressemblent justement à des êtres vivants. Donc ici, vous voyez que la frontière, enfin la limite entre justement placer des objets funéraires dans la tombe, ces fameux mingqi, ces ustensiles mystiques, hein, cette frontière entre mettre des objets dans la tombe pour que le défunt puisse continuer justement son existence d'avant, hein, comme s'il pouvait continuer cette existence. La frontière est vraiment très, très mince avec justement cette pratique des sacrifices humains. Donc ici, on place le traité des rites, place dans la bouche de Confucius ce dilemme. Les deux passages que nous venons de lire montrent bien donc comment Confucius essaye de se tirer de ce dilemme en disant bon, oui, au fond c'est bien de mettre ces objets, mais il ne faut pas qu'ils ressemblent trop justement à des objets réels, et il ne faut pas que les figurines que l'on place à la place justement des serviteurs qui ressemblent trop à des êtres humains, parce qu'au fond, si on prend les entretiens attribués à Confucius, ce texte est censé refléter un monde où les relations entre les vivants priment sur les relations entre les vivants et les morts. Et on comprend maintenant, dans une autre lumière, ce fameux passage que nous avions lu précédemment, donc des entretiens au livre 11, à la section 12, qui dit ceci, donc « Ti lu wen shi gui shen ». Donc, Ti lu, c'est un disciple qui vient demander au maître comment servir donc les kuei, c'est-à-dire les man des ancêtres ou des défunts, et les shen, c'est-à-dire donc les esprits. Et le maître répond, ziyue, wei neng shi ren, yan neng shi kuei. Quand on ne sait pas encore servir donc les humains, comment est-ce qu'on peut servir leur manne. Et de la même façon, donc, le disciple, Kan Wen Si, donc, ose demander, il pose une question justement sur les morts ou la mort. Et la réponse du maître, Yue, Wei Zhi Sheng, Yan Zhi Si, c'est-à-dire quand on ne sait pas encore comment traiter les vivants, comment est-ce qu'on peut prétendre traiter les morts. Donc ici, c'est une phrase que nous avions lue à propos justement de ce qu'on a appelé l'humanisme confucéen. Et on a vu dans cette phrase justement la preuve de cet humanisme de Confucius qui donne vraiment la priorité donc aux vivants et aux humains réellement là, avant de s'occuper de l'au-delà et des morts et des esprits. Mais si on replace justement cette phrase dans le contexte que j'ai essayé de mettre en place depuis quelque temps, donc vous voyez que ici on comprend la phrase un petit peu dans une autre lumière. Alors, si on continue justement dans l'examen en fait l'examen critique de ce fameux continuum entre les morts et les vivants, on peut revenir justement à cette phrase du traité des rites au chapitre Ti Yi, c'est-à-dire donc la signification des sacrifices, à la section 4 que nous avions lue la dernière fois. Donc là, je vous ai reproduit simplement donc le membre de phrase qui m'intéresse ici. Donc, Jun zi sheng zhe jing yang, si zhe jing xiang. Donc, avec l'effet de rime hein, entre yang et xiang. Donc, l'homme de bien, donc cet idéal confucéen, du vivant de ses parents, sheng, hein, quand les parents sont encore vivants. Il jing yang, il met tout son respect à yang, à les nourrir, à leur donner à manger hein, matériellement. Hein, bon, et si zhe jing xiang. Et quand ils sont morts, après leur mort, il met tout son respect à les xiang, à leur faire des offrandes sacrificielles. Hein, c'est-à-dire au fond à les nourrir symboliquement. Mais justement, en fait, là aussi, vous avez cette ambiguïté de la frontière entre de la nourriture réelle et de la nourriture symbolique, exactement comme cette frontière très, très, au fond, très peu marquée entre les ustensiles dont on se sert dans la vie courante et les ustensiles mingqi que l'on place dans la tombe, qui ont toute l'apparence des ustensiles courants, mais dont on ne peut pas se servir. Et si vous prenez les entretiens au livre 2, à la section 7, vous avez donc un disciple, Ziyo, qui vient poser la question de la piété filiale. Ziyo, Wen Xiao. Donc ce fameux terme de Xiao qui nous occupe depuis quelque temps, et grâce à l'un d'entre vous, donc je suis allée voir le dernier film de Jia Zhangke, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, dont le titre est traduit en français par « Par-delà les montagnes » ou quelque chose comme ça. Et vous avez donc dans ce film donc une scène de, on pourrait dire, de rite funéraire moderne, donc extrêmement, extrêmement simplifiée, hein, où une mère donc apprend à son fils, donc un fils qui a été élevé enfin à l'occidental, elle lui apprend donc à s'incliner devant donc la dépouille de son grand-père. Là, le fils, quand sa mère lui dit il faut s'agenouiller, il comprend même pas ce qu'elle lui dit. Hein. Bon, vous aurez peut-être remarqué donc que cette mère, au moment où son père meurt, donc elle enfile donc un brassard noir sur le bras de son propre fils. Et ce brassard porte justement ce mot xiao, donc piété filiale. Alors, donc ça c'est juste une parenthèse pour vous montrer que même avec la rupture de la modernité, etc., donc en Chine même très contemporaine, vous avez encore une espèce de vestige de ces rites funéraires. Alors, le maître répond à cette question concernant donc le xiao, la piété filiale. Jin zhe xiao zhe, shi wei neng yang. La piété filiale d'aujourd'hui, donc là nous sommes à l'époque de Confucius, ça consiste à être neng yang, à être capable de nourrir ses parents. C'est-à-dire, au fond, ici, ce qui est dit, c'est que de nos jours, la piété filiale, ça se limite à donner à manger à ses parents. Mais, même des chiens, des chiens et des chevaux, eux aussi ils sont capables, ils savent nourrir leurs parents, ils savent en faire autant. Donc Poutine, si il n'y a pas ce profond sentiment de respect de Qing, Rui Bierou, où est la différence? Autrement dit, si la piété filiale se limite à donner à manger, à nourrir ses parents, hein, à ce moment-là, les animaux en font autant. Hein, donc, est-ce que c'est vraiment ça qu'on appelle donc l'humanité, hein, est-ce que notre humanité réside en cela, simplement à se contenter de nourrir ses parents? Alors, on comprend ici que la piété filiale, qu'elle concerne donc des parents vivants ou des parents défunts, c'est avant tout l'obligation de nourrir les parents. De fait, les offrandes sacrificielles consistent essentiellement en des choses à manger, hein, ou à boire. Alors, aujourd'hui, en Chine, puisque nous avons fait cette allusion à la Chine tout à fait contemporaine, ce thème de l'obligation de nourrir ses parents revient donc à la une des médias, parce que en l'absence d'un système satisfaisant de couverture retraite pour les personnes âgées, donc les autorités chinoises trouvent assez commode de remettre à l'honneur ce sens de la piété filiale, hein, ce fameux xiao, qui supposément donc ferait partie en quelque sorte des gènes culturels propres à tout Chinois qui se respecte. Hein. Bon. En réalité, on voit bien que l'obligation de nourrir, d'entretenir ses vieux parents a pour objectif de pallier donc les défaillances du dispositif de retraite, surtout dans une population vieillissante, comme c'est le cas de la Chine actuellement, ce qui est d'ailleurs une conséquence, en tout cas partielle, de la politique de l'enfant unique, qui a été pratiquée de manière assez drastique pendant des décennies et officiellement abolie seulement en novembre dernier. Donc là, vous avez évidemment les conséquences à long terme d'une politique autoritaire de ce genre. C'est-à-dire donc vous avez un vieillissement de la population, avec donc un rétrécissement bien sûr de la population active qui est censée donc justement yang, nourrir donc des générations de parents et de grands-parents de plus en plus évidemment écrasantes. Vous avez un point intéressant justement sur cet aspect contemporain dans l'ouvrage de Charlotte Eakles qu'elle a coordonné. Là aussi, vous trouverez donc les références en ligne. Un ouvrage qui s'intitule donc Filial Piety, Practice and Discourse in Contemporary East Asia, c'est-à-dire donc piété filiale, pratique et discours en Asie orientale contemporaine. Un ouvrage qui est paru aux presses universitaires de Stanford, en Californie, donc en 2004. Mais si on en revient donc à l'éducation traditionnelle chinoise, l'inculcation de la piété filiale dès l'enfance met un accent donc très net sur donc ce devoir de nourrir les parents, quoi qu'il en coûte. Et c'est là, je pense, que ce à quoi faisait allusion Jean-François Bilter, que nous avons cité la dernière fois, quand il parle des formes obsessionnelles, voire pathologiques, prises par la piété filiale en Chine, surtout à partir donc de l'époque Han, c'est-à-dire en fait pendant, en gros, toute l'histoire impériale, hein, c'est-à-dire pendant à peu près les deux millénaires de l'ère chrétienne. Alors, vous avez ça, par exemple, dans ce que on a intitulé les 24 exemples de piété filiale, dont vous avez une illustration ici. C'est H.C.Xiao, c'est-à-dire donc ces 24 exemples de piété filiale, sont un recueil d'anecdotes, d'historiettes, qui sont l'œuvre d'un certain Guo Jujing, qui a vécu sous la dynastie mongole des Yuan, c'est-à-dire au XIIIe, XIVe siècle. Alors, ce personnage était réputé pour sa piété filiale, d'ailleurs, son nom signifie donc demeurer dans le respect. Il a rédigé ce recueil à l'occasion donc de la mort de son père pour servir d'exemple aux générations futures. Et ce recueil comprend des histoires qui remontent à l'antiquité mythique de l'empereur Shun jusqu'à l'époque de l'auteur, donc de l'époque mongole. Je rappelle que c'est cette époque mongole que Marco Polo donc est censé avoir connu, hein, quand il est supposé avoir s'être rendu en Chine. Alors, toutes les histoires se présentent sur un même modèle qui est fait pour être facilement mémorisable, notamment par des enfants. Hein. Donc, il y a une sorte de mnémotechnique ici. Vous avez d'abord un titre à quatre caractères qui est formulé comme un cheng yu, c'est-à-dire donc une expression consacrée à quatre caractères dont les Chinois raffolent. Puis vous avez quelques lignes pour raconter l'histoire. Et enfin, vous avez chaque fois une comptine en vers, de quatre vers à cinq caractères, qui résume la morale de l'histoire. Alors, ce recueil a fait l'objet de très nombreuses éditions à large diffusion, notamment des éditions illustrées qu'on a appelées donc les H.C.Xiao Tu, c'est-à-dire donc les 24 exemples de piété filiale illustrés avec images. Alors, la diffusion de ce recueil n'a été interdite qu'avec l'arrivée au pouvoir des communistes en 1949. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'elle a repris dès donc les années Deng Xiaoping, dès donc la sortie du maoïsme après la révolution culturelle, donc dès les années 1980. Et je me suis procuré donc en Chine, c'est très facile, ça se vend dans toutes les librairies, ce petit livret donc qui s'intitule H.C. Xiao. et qui vous présente donc cet ouvrage en bande dessinée. Donc là, manifestement, ça vise un public vraiment très, très, très jeune. Et je vous ai apporté en prime, également en bande dessinée, L'enfance de Confucius. Je vous le laisse ici pour consultation. Donc ça vous montre que même donc en Chine actuelle, vous avez donc ce retour justement de ces valeurs traditionnelles. Et parmi les historiettes qui composent le recueil, la plupart mettent en scène des fils pieux qui feraient n'importe quoi pour prendre soin le plus souvent de leur mère dans ses vieux jours. Donc là, c'est très souvent en fait une histoire donc de fils et non pas de fille, mais qui ferait vraiment n'importe quoi pour subvenir aux besoins donc de leur mère âgée. Et quand je dis n'importe quoi, ça peut aller jusqu'à des détails carrément scatologiques, c'est-à-dire donc le fils pieux met un point d'honneur à vider et nettoyer le pot de chambre, ou même à goûter les excréments pour savoir quel est l'état de santé donc de sa vieille mère. Mais ce qui est frappant, c'est que dans la plupart des histoires, il est question de vraiment faire n'importe quoi pour pouvoir nourrir donc le vieux parent en lui apportant ses mets préférés. Vous avez par exemple l'histoire d'un fils qui n'hésite pas à se déshabiller complètement, se mettre tout nu sur la glace d'un lac gelé pour faire fondre la glace avec la chaleur de son corps, et tout ça pour rapporter donc des carpes à sa belle-mère, parce que sa belle-mère a tout d'un coup une envie de carpe. Et donc là, le fils pieux, ici il s'agit du gendre, en fait, vraiment va très très loin justement pour se procurer ces carpes. Alors, d'autres anecdotes visent à illustrer la piété filiale en allant encore plus loin, c'est-à-dire en parlant de se couper un morceau de chair pour préparer, par exemple, une soupe bien nourrissante pour les parents. Alors, cette polarisation de la culture ritualiste confucéenne sur la piété filiale explique qu'elle a été l'une des cibles principales de l'iconoclasme révolutionnaire des intellectuels modernistes du début du XXe siècle. Vous avez par exemple un nom qui reviendra, donc Chen Duxiu, qui a été l'un des dirigeants à l'université de Pékin déjà du mouvement du 4 mai 1919, un mouvement moderniste à tout craint, et qui a été également l'un des cofondateurs du Parti communiste chinois, donc en 1921. Et Chen Duxiu est connu pour avoir déclaré que la piété filiale est le pire des maux et l'origine de tous les vices. Et dans ce sens, on peut dire que Chen Duxiu prenait exactement le contre-pied d'une fameuse phrase du Mencius qui disait que Pu xiao you san, wu hou wei da, c'est-à-dire donc parmi les trois façons de manquer à la piété filiale, la plus grave, c'est de ne pas avoir de descendance. Donc là, en fait, Chen Duxiu prend exactement le contre-pied en disant que la piété filiale, au contraire, c'est vraiment le pire des maux. Et vous avez également le grand Lu Xun, donc l'un des plus grands écrivains du XXe siècle chinois, qui consacre un texte extrêmement critique au Shi Si Xiao Tu, c'est-à-dire aux 24 exemples de piété filiale illustrés, dans un recueil de textes traduit en français sous le titre Fleurs du matin cueillies le soir, qui date de 1927. Et également dans un texte daté de 1918, un texte extrêmement connu qui s'appelle Le journal d'un fou, Kuang Ren Je Ji, paru justement dans cette revue dont vous avez la couverture sur la diapositive, cette revue fondée par Chen Duxiu, dont je viens de parler, qui s'appelle Xin Qing Nian, donc, et qui porte en sous-titre donc, le titre français « La jeunesse ». Donc là, c'est intéressant que vous ayez cette revue qui se donne justement un sous-titre délibérément français. Donc, dans ce journal d'un fou, Lu Xun enfonce le clou, si j'ose dire, de manière tout à fait radicale et visionnaire, voire hallucinatoire. Alors, je vous ai reproduit donc ce passage, histoire de changer un petit peu de nos vieux grimoires. Hein. Ici, vous avez de la prose moderne. Fan shi zong xu yan jiu, cai hui ming bai. Donc, toute chose a besoin d'être étudiée pour être comprise. Je vous donne ici la traduction d'un des meilleurs spécialistes actuels en France de Lu Xun, qui s'appelle Sébastien Weg, V-E-G, qui a traduit donc ce texte dans un recueil intitulé « Cri, Nahan », publié aux presses de l'École normale supérieure en 2010. Sébastien Weg est actuellement donc directeur d'études à l'EHESS et donne un cours malheureusement auquel je ne peux pas assister parce que ça intervient juste à peu près en même temps que mon cours et mon séminaire du jeudi à l'EHESS. Donc dans ce texte, Lu Xun continue en disant donc Gu Lai Shi Chang. Donc, dans le passé, on mangeait souvent des humains. Moi-même, je m'en souviens, mais pas très clairement. Là, c'est quelqu'un d'un peu dérangé hein, qui parle. J'ai ouvert un livre d'histoire pour vérifier, aucune indication chronologique, mais sur toutes les pages, écrites dans tous les sens, on lisait les mots humanité, justice, voix, vertu. Là, ce sont quatre mots qui sont des mots-clés dans le vocabulaire confucéen. Donc, ne parvenant de toute manière pas à dormir, je l'examinais minutieusement une bonne partie de la nuit, hein, il s'agit donc de ce livre d'histoire, et discernais finalement des caractères entre les lignes. Le livre était rempli des mots « chiren », manger de l'homme, manger de la chair humaine. Là, vous voyez donc apparaître ce thème du cannibalisme qui, pour Lu Xun, au fond, est la meilleure caractéristique de toute la civilisation confucéenne chinoise. C'est quand même quelque chose. Hein. Là, vous avez vraiment une critique tout à fait radicale. Et ce thème du cannibalisme, et je vais en terminer là aujourd'hui, donc hante, on pourrait dire, toute la littérature chinoise moderne, et se retrouve de fait dans l'œuvre de Mo Yan, donc cet écrivain qui a reçu le prix Nobel donc en 2012. Je finirai justement sur les propos de Mo Yan dans un entretien qu'il a accordé à Noël Dutrait, donc un collègue qui enseigne à Aix-en-Provence et qui est traducteur entre autres de l'autre prix Nobel, mais pas reconnu en Chine, donc de Gao Xingjian. Donc cet entretien est daté de 2000, de l'an 2000, c'est-à-dire en fait bien avant, 12 ans avant l'attribution du prix Nobel à Moyenne. Et l'entretien porte plus spécialement sur le roman Jiuguo, c'est-à-dire donc le pays de l'alcool. Alors Moyenne dit ceci, existe-t-il réellement dans la société chinoise des faits de cannibalisme ? Historiquement, c'est sûr. Prenez l'exemple de Yiya, à l'époque des royaumes combattants, qui a donné son fils à manger au duc Huan de Qi. D'autres faits sont attestés à l'époque féodale. La piété filiale contraignait à donner sa propre chair pour guérir ses parents. Donc là, vous avez une allusion justement à ce que je disais tout à l'heure. Lu Xun et son journal d'un fou, qui se termine par l'appel « Sauvez les enfants ». Et les témoignages de Zheng Yi à l'époque de la Révolution culturelle sur des actes de cannibalisme dans le sud de la Chine. Tout prouve que le cannibalisme a existé. On en trouve aussi des traces dans le roman des Trois Royaumes, hein, le Sanguoyen Yi, ou dans Au bord de l'eau, le Shuihu. Mais pour ce qui est de notre époque, nous n'avons pas réellement de preuves que des enfants aient été dévorés, comme je l'écris dans mon roman, où le cannibalisme a une valeur plutôt symbolique. Ce qui m'a vraiment poussé à écrire sur ce sujet, c'est le fait que j'ai plusieurs amis qui travaillent dans des hôpitaux. Ils récupèrent des fœtus de 3 mois, après des avortements, dont ils font une sorte de poudre. En médecine chinoise, il existe un remède fabriqué avec du placenta, c'est un fortifiant très efficace. Dans le sud, beaucoup de médecins en font avec des fœtus. C'est la même chose lorsque les Chinois mangent des poussins dans l'œuf juste avant qu'ils ne brisent leur coquille, c'est un excellent fortifiant. Tout ça, c'est pour nous mettre en appétit, hein, bien sûr. Alors, il existe en Chine une tradition du nuèche, c'est-à-dire manger de manière cruelle. Par exemple, lorsqu'on mange des poissons qui frétillent quand on les apporte sur la table, qu'on prélève de la chair sur des ânes encore en vie, etc. Hein, bon, ça, c'est... beaucoup de Chinois disent qu'il n'y a que les Cantonais qui font ça, mais enfin, bien. Et c'est de cette tradition que je voulais parler. Je pense qu'en Occident, personne n'oserait manger de fœtus. On trouverait cela répugnant. En Chine, il existe une sorte de médecine mystique. Là, ça nous rappelle justement ces ustensiles mystiques. Un des préceptes de la médecine chinoise consiste à fortifier tel organe avec tel organe. Si l'on souffre du foie, on mangera du foie de porc. Si l'on souffre des reins, on mangera des rognons de porc. De même pour le rectum. Quand ce livre a été terminé, je l'ai envoyé à des revues, mais personne n'a osé le publier. On se demande pourquoi. Hein. Non seulement à cause de son contenu, mais aussi de sa forme. On me disait, mais comment peut-on écrire un tel roman ? Comment est-ce permis ? Mais là, en fait, vous avez quelqu'un qui vous dit, bon, oui, en fait, ce que j'ai écrit, ça a valeur symbolique, mais en réalité, il vous montre aussi des exemples tout à fait réels. Donc, on pourrait dire que aussi bien Lu Xun que Moyenne nous entretiennent avec des fantasmagories d'ordre littéraire, mais au fond, on peut dire qu'ils rejoignent les propos de Jean Lévy sur la pratique ritualiste funéraire qui pousse la logique de la continuité jusqu'au sacrifice humain, hein, ce qui justifie tout à fait Jean-François Bilter dans sa remarque qu'il n'y a jamais eu de rupture. Le sacrifice humain n'a jamais été clairement condamné. Donc là, ce que j'ai voulu vous montrer, au fond, c'est ce qu'on pourrait appeler le revers de la continuité, le revers de ce continuisme. Et donc, nous allons poursuivre justement sur d'autres aspects de ce continuisme la prochaine fois. Donc, merci de votre attention et bon appétit quand même.